C'est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, pour l'émission des périphériques vous parle. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de cette émission consacrée à un tout autre champ, puisqu'il s'agit des bouleversements environnementaux, des attitudes humaines incertaines, des comportements naturels résolus. Il s'agit d'une intervention de Jean-Luc Ménard, issue d'une conférence prononcée à la Maison de l'Environnement de Melun-Sénart. Nous allons pouvoir aborder un certain nombre de questions liées au réchauffement climatique et plus précisément à certains paradoxes corrélés à ce même réchauffement climatique. Jean-Luc, y a-t-il une dominante dans les réactions humaines face aux bouleversements environnementaux ?
Eh bien, effectivement, il y en a une. C'est le recours, actuel ou envisagé, à la géo-ingénierie, c'est-à-dire à des techniques, à des technologies dites environnementales qui permettraient de réduire le réchauffement climatique. C'est en tout cas le but, entre autres. Alors, par exemple, là, pour commencer par ce qui est envisagé, un pare-soleil géant d'une dimension de la moitié du diamètre de la Terre, il se composerait de plusieurs milliers de milliards de structures minuscules qui seraient lancées toutes les 5 minutes pendant 10 années consécutives et qui réduiraient de 2% le rayonnement solaire.
2%?
Le seul problème, c'est que c'est placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ah, alors, c'est contrôlable éventuellement, même certainement. Mais il faut bien voir que la différence entre ces 2% et 3% de réduction du rayonnement solaire, 3%, ça déclenche une glaciation sur la planète. Donc, il y a peu de marge. Bon, par ailleurs, quand même, chaque année, ça coûte 100 milliards de dollars. Avec 300 000 milliards de dollars de dettes, déjà, quel argent on va faire ça?
Et ça, c'est un projet qui émane de quel pays?
Alors, ça émane de la communauté scientifique, disons, scientifique, scientiste, quoi. Alors, deuxième chose, s'inspirer des volcans, qui rejettent dans l'atmosphère, lorsqu'ils explosent, lorsqu'ils sont en éruption, des particules de soufre. Alors, effectivement, hein, les particules de soufre réfléchissent le rayonnement solaire, le renvoient vers l'espace. Et donc, là, le projet, ce serait d'en envoyer en permanence, alors que les volcans, eux, n'en envoient que temporairement, hein, ce qui est une grande différence. Alors, là, ce qui est attendu, c'est effectivement une diminution du rayonnement solaire, insuffisante pour contrer le réchauffement climatique, mais les effets secondaires sont importants aussi, puisqu'il y aurait une diminution des précipitations d'au moins 6%, partout sur la planète, hein, avec des pointes à 20% en Amazonie, par exemple, et puis aussi entre le tiers et la moitié de l'actuel écran d'ozone disparaîtrait.
D'accord, on s'inspire des grandes éruptions qui ont eu lieu, telles le Krakatoa à la fin du XIXe siècle, où il y a eu une baisse subite de la température.
Oui, mais la différence, c'est que ça a été une baisse temporaire. En Europe, ça a été que au mois de juillet, par exemple, de cette année-là. Hein, alors que là, envoyer des particules de soufre tout le temps, bon...
Ah ouais.
C'est quand même très embêtant. Mm. Alors, ce qui se fait actuellement est aussi marqué par cette dominante, c'est-à-dire qu'on cherche absolument à faire pleuvoir. Alors, c'est très ancien dans l'humanité, il y a toujours eu des danses pour faire pleuvoir, choses comme ça. Alors là, c'est moins prosaïque, c'est moins politique, disons, plus prosaïque. Exactement. Il s'agit d'envoyer, et ça c'est fait très fréquemment, des cristaux d'iodure d'argent dans l'atmosphère qui alourdissent des gouttelettes qui s'y trouvent et qui les transforment en gouttes de pluie. Bon. Depuis les années 40 que c'est pratiqué, en Chine, en Israël, Cuba, USA...
Par avion,
Nouvelle-Zélande, Venezuela... Non, par fusée.
Par fusée.
Oui. Alors, ça peut être lâché par avion aussi. Depuis donc que le temps, une bonne 70 ans maintenant, il y a très peu de résultats quant à la pluie. Par exemple, en Chine, ça déclenche 15% des précipitations naturelles, pas plus. En Israël, ils en font depuis 1962. Quand on compare avec les précipitations dans les pays voisins, Liban, Syrie, les mêmes quantités ont lieu dans ces deux pays sans du tout... chercher à faire pleuvoir. En revanche, le seul résultat tangible, c'est l'accumulation de sel non soluble dans l'eau.
Et qu'en est-il de l'eau en général?
Cette technique de faire pleuvoir contribue hein, un phénomène très important, c'est la salinisation de l'ensemble de l'eau douce de la planète. Alors, tout de suite, hein, on évacue le problème qui pourtant est mentionné sans arrêt, là, à savoir, oh là là, on va manquer d'eau. Bon, totalement exclu. Hein, parce que rien que dans les immenses aquifères qu'il y a sous tous les continents de la planète, ces immenses aquifères réunissent 200 milliards de kilomètres cubes d'eau, alors que la consommation actuelle, c'est 400 millions de kilomètres cubes d'eau. Donc en fait, hein, vu ces réserves et vu la consommation mondiale actuelle, il y a 500 ans de réserve d'eau, seulement en tenant compte de ces immenses nappes phréatiques. Alors, sans tenir compte des cours d'eau, ni sans tenir compte des précipitations. Donc, le problème, il n'y a plus d'eau sur la Terre, etc., non. En revanche, un problème dont il n'est jamais, enfin, rarement parlé, hein, et pourtant des mesures scientifiques ont été faites, c'est le problème de la salinisation de l'ensemble des cours d'eau. Actuellement, les nappes phréatiques, hein, les aquifères dont je viens de parler, et tous les cours d'eau planétaires approchent de 200 mg de sel par litre. Or, à partir de 250 mg de sel par litre, les organismes humains sont intolérants, c'est-à-dire que l'humanité ne pourra plus se désaltérer. C'est dû, hein, justement au phénomène de la montée des eaux marines, océans et mers. Hein. Alors, en effet, hein, quand il y a 1 cm cube d'eau salée dans une nappe phréatique d'eau douce, ce sont 40 cm cubes de cette nappe phréatique qui sont salinisées. Lorsqu'il y a 1 cm d'entrée d'eau de mer sur les linéaires côtiers, en fait, ce sont 150 mètres supplémentaires de ces côtes qui sont salinisées. Ces impacts se font jusqu'à des nappes phréatiques situées à 100 km des linéaires côtiers. Bon. Par ailleurs, pour les cours d'eau, ce sont surtout les extractions. Alors, l'extraction d'eau, déjà, hein, puisque quand on retire un fluide, automatiquement, les sédiments s'affaissent. Mais les cours d'eau, eux, sont concernés également par toutes les extractions minières, qui rejettent énormément de sel, hein, notamment la potasse, mais pas seulement. Hein. Ce qui fait qu'on a cette situation, très embêtante, puisque à partir de 250 mg par litre, c'est un peu fichu. Alors, c'est imputable à la montée des eaux, mais surtout, c'est imputable à la constante hausse de la hauteur des vagues, même des vagues normales. Hein, parce que, comme il y a un réchauffement global, hein, automatiquement, les océans et les mers stockent beaucoup plus de chaleur. Cette chaleur, c'est de l'énergie. Même les vagues normales sont en hausse, mais toutes les vagues de tempête sont également en hausse.
Alors, après ces exemples négatifs, l'espèce humaine prend-elle quelques heureuses initiatives malgré tout ?
Alors, en tout cas, il y en a une seule qui est planétaire et qui est très importante. Alors, ça se situe à Longyearbyen, dans l'archipel de Svalbard, en Norvège. Et à 130 mètres de profondeur, là-bas, il y a encore du permafrost. Et il y a encore moins 20 degrés en permanence. Et là, l'ensemble de l'humanité, disons, a la sagesse de stocker actuellement 800 000 graines de variétés anciennes, de toutes sortes de végétaux, hein, avec l'objectif d'atteindre 3 millions de graines de variétés anciennes de toutes sortes de végétaux. Alors, par exemple, hein, d'ores et déjà, 90% des variétés anciennes de maïs sont stockées là-bas, 70% des variétés anciennes de niébé, qui est un pois du continent africain, 1500 variétés anciennes de pommes de terre cultivées par les humains durant les 13 000 dernières années, des tomates et des amarantes que les Incas cultivaient, des légumineuses que les Indiens, dont les Indiens navarros ont fait don, qui cultivent depuis longtemps, des noix de coco du Sri Lanka, des fraises des îles Kouriles, du blé du Pamir, même en Syrie en pleine guerre, des scientifiques ont fait acheminer des pois chiches, de variétés anciennes de pois chiches, bon, des plantes fourragères, animales. Bon. Le succès futur semble être assuré puisque déjà ces graines ont été utilisées dans des pays où les sols ont beaucoup souffert, notamment, et ces pays, ce sont l'Irak et l'Afghanistan. Et donc ces variétés anciennes se sont très bien comportées. même dans des sols archi mauvais. Hein. Et ils ont donné des récoltes tout à fait, sont adaptées comme on le prévoyait, parce que ce sont des variétés anciennes qui ont connu beaucoup d'évolutions climatiques et autres. Hein, et donc ça c'est la seule initiative vraiment, mais elle est importante et elle n'est pas spécialement...
Alors,
par ailleurs quand même, évidemment qu'il y a les aires protégées par exemple, qui sont des initiatives non négligeables. Par exemple, des aires marines, des bouts de littoraux, des côtes, des parcs naturels, des choses comme ça. Bon, il y a également, de plus en plus dans les zones urbaines, des parcs qui sont entretenus sans pesticides, par exemple. Et donc, du coup, toutes ces choses-là servent de refuge à des espèces qui sont un petit peu en transit. Ce sont quelques mécanismes qui s'ajoutent au dynamisme naturel. Hein, mais bon, même s'il n'y avait pas, il y aurait quand même des dynamismes naturels, très, très importants actuellement.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ces dynamismes naturels ?
Oui, bien sûr, je vais en donner beaucoup d'exemples. Bon, avant cela, quelques remarques introductives. Actuellement, selon la moyenne des estimations, il y a environ 30 millions d'espèces sur la planète. Des espèces animales, végétales, microscopiques et macroscopiques. Selon les estimations aussi moyennes, chaque année, environ 4000 espèces, sur ce stock de 30 millions, disparaissent. Mais chaque année aussi, environ 4000 espèces nouvelles apparaissent. Donc en fait, le stock est relativement stable. Chaque jour, plusieurs espèces qui figuraient sur des listes d'espèces disparues sont retrouvées. Rien qu'en Île-de-France, pas moins de 713 espèces végétales figurant sur des listes d'espèces disparues ont été retrouvées récemment. C'est ainsi que la bruyère à balai, le polygala chevelu, l'œillet magnifique, et donc c'est plus de 710 autres, sont toujours en Île-de-France, contrairement à ce qui était indiqué. Alors, en fait, ça s'explique aussi par... le fait que lorsque, même il n'y a pas de bouleversements environnementaux, les espèces circulent. Ouais, depuis qu'il y a des organismes multicellulaires, c'est-à-dire depuis 550 millions d'années, les espèces, y compris les arbres, circulent partout sur la planète. Bon. Mais quand il y a un bouleversement environnemental important, là, évidemment, s'intensifie la circulation des espèces. Et troisième chose... quand il y a des écosystèmes dégradés, en quelque sorte, la nature missionne des dizaines de milliers d'espèces, qui sont qualifiées à tort d'invasives par les humains, pour aller réparer les écosystèmes. Quels sont actuellement les comportements des 30 millions d'espèces ? Le premier, c'est de changer de lieu d'habitation. Un cinquième des espèces actuelles vont vers plus de chaleur. Qu'un cinquième vers plus de fraîcheur, on le verra tout à l'heure. Par exemple, comme il y a 25 millions d'années, comme elles l'ont fait il y a 25 millions d'années, les 500 espèces de potentilles, qui sont des rosiers sauvages, qui vivaient au centre, en gros, des États-Unis, se dirigent vers l'ouest, et elles ne choisissent pas d'émigrer là-bas par hasard, puisque la Californie, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la Californie, est depuis 45 millions d'années, l'endroit sur la planète où il y a eu le moins d'extinction d'espèces. Par exemple encore, dans une forêt du Ghana, aujourd'hui on a des essences d'arbres qui n'étaient pas présents en 1970. C'est-à-dire qu'en moins de 40 ans, les essences d'arbres qui étaient là-bas en 1970 sont parties ailleurs, et les espèces d'arbres qui sont là-bas sont arrivées en recherche de sécheresse aussi. Ou encore, autre exemple parmi beaucoup d'autres, dans les trois océans qui bordent l'Amérique du Nord, 73% de 128 millions d'individus qui appartiennent à 360 espèces marines différentes se dirigent actuellement vers le sud, donc en recherche de chaleur, et 75% de ces individus recherchent des eaux moins profondes, donc des eaux plus chaudes. Néanmoins, les 4/5 des espèces choisissent des lieux plus frais, dans cette stratégie de changement d'habitat. Alors c'est le cas par exemple d'Anelis cristatellus, qui est un lézard, qui était à Porto Rico il y a 35 ans, et puis qui maintenant est dans la région de Miami. Pourtant les lézards sont des animaux à sang froid. Et pourtant, ils recherchent des lieux plus frais. Et il y a des dizaines d'espèces de lézards qui font la même chose sur la planète. Alors, c'est par exemple le cas aussi, comme il y a 56 millions d'années, un réchauffement particulièrement bien connu, bien documenté, en Amérique du Nord, 700 espèces d'arbres, des aulnes, des érables, des noyers et beaucoup d'autres, sont 550 km plus au nord, exactement comme ils l'ont fait il y a 56 millions d'années. Alors, même chose, toujours par rapport à 56 millions d'années, dans l'ouest de l'océan, dans l'océan Arctique, 100 espèces de radiolaires, qui sont du microplancton, sont parties d'Atlantique tropicale pour se retrouver dans l'océan Arctique, tout à fait comme normalement, comme il y a 56 millions d'années. Bon, et puis il y a aussi des espèces qui changent de maison, simplement. Alors par exemple, là, beaucoup d'exemples, le moucherolle des saules, qui est un passereau, qui vit en Amérique du Nord. Bon, les saules ont tendance à partir de la région, des régions où il est, mais en provenance du bassin méditerranéen, les tamaris arrivent. Les tamaris sont des arbustes, qui sont un petit peu emblématiques du pourtour méditerranéen, mais qui ne sont plus, du coup, du fait de l'achèvement climatique, puisqu'ils vont un petit peu partout ailleurs. Et du coup, le moucherolle des saules a adopté comme maison les tamaris. Donc maintenant, on peut l'appeler le moucherolle des tamaris. Alors, changer de lieu, mais également changer de nourriture. Deuxième exemple de dynamisme naturel du fait du réchauffement global, des pertes d'habitat, etc. Jusqu'à 1987, c'est très précis, un papillon qui s'appelle l'argus, il mangeait des cistes. Alors les cistes, ce sont des arbrisseaux à fleurs. Et puis depuis, il s'est mis à manger des géraniums, qui sont beaucoup plus abondants. Et donc il a multiplié par deux son espace vital. Donc autre façon de s'adapter. Alors il y a également beaucoup d'espèces invasives, mais à tort, considérées à tort comme invasives par les humains, en tout cas par une majorité d'entre eux. Alors, exemple, l'armoise. Elle se répand aussi bien en Amérique du Nord, mais également au Chili, en Chine, etc. Et évidemment que les animaux locaux, comme par exemple les cerfs, les tétras, les wapitis, et puis d'autres pour la Chine, puisque ce ne sont pas les mêmes, sont très contents. Parce que chaque pied sauvage d'armoise vit en moyenne 220 ans. Ça assure de la nourriture. Pas de problème. Alors, autre exemple, dans les Everglades, aux États-Unis, des escargots en provenance du Brésil et d'Argentine, qui sont installés là-bas, font le bonheur de dizaines d'espèces d'oiseaux des Everglades qui manquaient de nourriture et qui donc se régalent et qui sont en prospérité maintenant grâce à ça. Autre exemple, Andricus scolari, qui est une guêpe qui colonise entre autres la Grande-Bretagne. Là-bas, les mésanges avaient un petit peu de mal au début du printemps avec le changement climatique. Mais depuis que cette guêpe est arrivée, évidemment, elle pond des larves. Et donc, la nourriture, là encore, la soudure est assurée. Alors, autre exemple, au Mexique, les abeilles dicteuses qui sont venues en provenance d'Afrique, là-bas, pollinisent le cajou et le forbe pour le plus grand bonheur des abeilles locales qui, elles, se trouvent une nourriture ainsi plus abondante. Okay, des exemples comme ça, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers. Alors, changer de lieu, changer de nourriture, mais également changer de taille et de poids. Autre stratégie, autre dynamisme. Actuellement, 13,5 millions d'espèces sur 30 millions font cela. Comme ils l'ont fait, d'ailleurs, par le passé, la plupart des espèces vont souvent vers des diminutions. Comme ça, ils mangent moins, ils sont plus résistants au réchauffement, etc. Alors, par exemple, rien que dans les 40 dernières années, donc c'est très court, c'est un temps de réaction, les 10 000 espèces de copépodes, qui sont des crustacés, qui se nourrissent de plancton, ont diminué de taille. Aux USA, dans l'Oklahoma, la température atmosphérique a augmenté de 6 degrés. Les bisons, pas de problème pour eux. Au lieu de peser 950 kg, maintenant ils pèsent 550 kg. En ce moment, les crapauds, les renards, les tortues, les loutres, les iguanes, les lynx et une infinité d'autres sont dans ce processus. Mais comme le montre toujours ce réchauffement bien documenté, ces modifications de taille et de poids, elles ne sont que temporaires. Par exemple, avec des fossiles, Hein, avant le réchauffement qui s'est produit il y a 56 millions d'années, il y avait une hyène qui faisait la taille d'un ours. Pendant le réchauffement, elle est descendue jusqu'à faire la taille d'un coyote actuel. Hein, et après le réchauffement, elle a retrouvé exactement la même taille. Et il y a toujours 56 millions d'années, ça a été exactement la même chose pour des fourmis, les rats, les lombriques, les écureuils, les cigales, les écrevisses. À tous ces changements, on peut ajouter, ne s'en prive pas, pourquoi ne pas tirer parti des comportements humains inopportuns en matière environnementale, hein. Alors par exemple, hein, les mers et les océans s'acidifient, hein, puisqu'ils sont saturés de CO2, hein, donc ils n'absorbent plus ce CO2, donc ça se transforme en acide carbonique qui reste à la surface ou même un peu en dessous. Eh bien, à 600 espèces de poissons, la plupart des 10 000 espèces de vers polychètes, qui sont des vers marins, et également l'ours à violet, ont modifié leur métabolisme pour s'adapter à cette acidification. Alors, le réchauffement, lui, hein, il se produit à la surface terrestre, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, les surfaces marines ne sont pas du tout exemptes. Hein, et entre beaucoup d'autres exemples, hein, dans le nord-est des USA, hein, l'épinette rouge, qui est une sorte de pin, hein, a multiplié sa biomasse par deux. Hein, elle est passée de 673 000 tonnes à 2,5 millions de tonnes, et elle absorbe 3,7 fois plus de CO2 aussi. Donc le réchauffement, c'est également de la prospérité pour pas mal de végétaux, hein, entre autres. Mais aussi, il y a les pollutions. Parce qu'il y a des espèces qui tirent parti de ça. Hein, puisque les espèces, elles s'adaptent à beaucoup de choses, hein, a priori. Alors par exemple, hein, les océans et les mers sont pleins de plastique. Pour les méduses, c'est l'aubaine. Elles ne le mangent pas, mais elles utilisent ces morceaux de plastique comme pouponnières. Alors, Nicotiana, hein, c'est dans la nature une plante, hein, qui a donné nicotine, donc. Hein, et à l'état sauvage, ça fait 10 millions d'années que pas mal d'oiseaux utilisent, hein, cette plante pour garnir leur nid, parce que ça éloigne les parasites. Mmh. Et dans les milieux urbains, les moineaux, les roselins, etc., ont compris que les mégots de cigarettes, c'était très utile. Et donc, des dizaines d'espèces d'oiseaux dans les milieux urbains ramassent, récoltent les mégots de cigarettes, les mettent dans leur nid. Et effectivement, des analyses ont été faites un peu partout sur la planète là-dessus. Les nids qui ont des mégots de cigarettes ont deux fois moins de parasites. Mais bien sûr, ces oiseaux ne vont jamais prendre de cigarettes non fumées. Puisque le principe actif de la nicotine ne se met en route que quand les cigarettes ont été fumées. Et donc, seuls les mégots fumés éloignent les parasites, hein, ils le savent. D'autres espèces, hein, par exemple, une variété de truite, hein, en Cornouailles, grâce à un gène détoxifiant qu'elle a, elle concentre 63 fois plus de métaux lourds. Également, la pollution par l'azote artificiel, hein, notamment dû aux engrais chimiques pour l'agriculture, Droseria rotundifolia, ne s'embête plus à sécréter des feuilles collantes, ni à arborer une couleur très rouge pour attirer des insectes qu'elle mange. Elle n'est plus carnivore. Hein, elle a compris que l'azote artificiel, l'azote chimique issu des engrais pouvait la faire vivre. Hein, et pourtant, elle vit en Suède dans des milieux sauvages. Hein. Et donc maintenant, elle arbore une couleur verte et puis elle ne s'embête plus à être carnivore.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission des périphériques vous parle. Il s'agit d'une intervention de Jean-Luc Ménard, issue d'une conférence prononcée à la Maison de l'Environnement de Melun-Sénart.
Quels sont les ressorts de ces multiples dynamismes naturels, Alain ?
Alors, là aussi, il y en a beaucoup, je vais en donner trois exemples, disons. Alors, tout d'abord, il y a le choix du sexe. Parce que énormément d'espèces animales, en tout cas, et peut-être végétales aussi, faut voir, actuellement choisissent de plus en plus le sexe masculin. Hein, qui est d'accroître le sexe masculin. 2300 espèces de mammifères et plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux, les pinsons, les perroquets, font ce choix qui, pour eux, Avoir plus de un peu plus de progéniture mâle que de progéniture femelle assurera leur survie, parce que les pertes d'habitat, la nourriture plus rare, les températures plus élevées, le sexe masculin est censé résister mieux. Mmh. En tout cas, c'est ce que choisissent hein, ces animaux. Alors, pour les végétaux, hein, nombre d'entre eux hein, ont des graines qui, une fois enfouies dans le sol, hein, par divers animaux d'ailleurs, hein, parce qu'il y a évidemment des coopérations, ces graines, hein, pour pas mal de végétaux, elles peuvent rester dans le sol avant de germer jusqu'à 1000 ans. Hein. Elles sont dotées de capteurs d'humidité, d'ensoleillement, etc. Et elles ne germent que si les conditions sont favorables. Elles peuvent attendre jusqu'à 1000 ans. La moutarde des champs, le coquelicot ont cette faculté. Alors, également, hein, la taille des cerveaux n'est pas négligeable, hein, comme ressort naturel. Hein. En effet, hein, dans 500 espèces de mammifères et 320 espèces d'oiseaux, hein, alors pour les mammifères, les chauves-souris, des marsupiaux, des cétacés, les ondulés, des félins, pour les oiseaux, les pies, les hiboux, les corbeaux, etc. Hein, quand les cerveaux occupent plus de volume par rapport à leur masse corporelle, hein, eh bien, ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux actuellement hein, à tous les bouleversements environnementaux. Et effectivement, hein, y a une explication naturelle à ça, c'est que plus le cerveau est gros dans des espèces animales, moins il y a sécrétion d'hormones stressantes, hein, ce qui favorise évidemment l'adaptation.
Alors quels sont maintenant les impacts de ces dynamismes naturels sur les écosystèmes d'une manière plus générale ?
Globalement, effectivement, hein, tous ces changements, tous ces ressorts naturels amènent soit à maintenir les écosystèmes, hein, soit à les faire réapparaître. Alors quelques exemples. Dans 61% des 300 îles de la Méditerranée occidentale, hein, au cours des 5000 dernières années, hein, les rats les ont conquis, hein, conquises toutes ces îles. Malgré cela, les oiseaux marins n'ont jamais disparu. Donc, on a bien un exemple hein, de rongeurs qui arrivent sur 61% des 300 îles de la Méditerranée occidentale, hein, donc seulement de l'ouest Méditerranée occidentale, et aucune disparition d'oiseaux marins qui étaient là antérieurement. Bon. Même chose en Nouvelle-Zélande, hein, où par les bateaux, des rats européens sont arrivés au XVIIe siècle. Hein. Et puis, donc, bon, bah, ils ont commencé hein, par détruire des oiseaux par le biais des œufs qu'ils mangeaient, etc. Alors, ces oiseaux pollinisent la vironique, le chèvrefeuille, et également le peu du kawa, hein, qui est l'arbre emblématique de Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, quand ça a été détruit, bah, il y a eu une période de flottement. Mais bien entendu que ces végétaux se sont débrouillés pour que ces rongeurs, ces rats, les pollinisent, hein, ils ont attiré par divers moyens, et encore aujourd'hui, ce sont ces rats qui pollinisent les végétaux. Hein. Alors, il y a quelques espèces d'oiseaux compatibles avec le comportement des rats, également, hein, qui se sont installés, hein, qui sont venus d'ailleurs, hein, qui ont fait leur nid très haut, enfin, etc., où les rats ne pouvaient pas grimper. Hein. Mais, là encore, hein, l'écosystème s'est maintenu. Autre exemple de maintien, au Canada, hein, c'est très peu connu, mais il existe un désert de sable, qui a résisté aux glaciations, etc. Hein, il se trouve dans le Manitoba. Et actuellement, les 6500 km² de désert, hein, des graminées venues des quatre coins de la Terre, sont en train de le renforcer volontairement. Et puis, il y a également des retours d'écosystèmes disparus, ce qui est quand même le but de la nature. Ah, elle missionne des espèces pour que l'écosystème soit les mêmes, soit d'autres, qui sont très dégradés, des écosystèmes nouveaux ou les mêmes soient restaurés. Alors, par exemple, hein, à Cape Cod, dans le Massachusetts, qui est une péninsule d'environ 3400 km², les crabes des marais mangeaient l'aspartine, hein, qui est une herbe qui est majoritaire là-bas. Ce qui faisait, évidemment, il n'y a plus de spartine, et donc il n'y a plus de marais salants, hein, puisque quand la spartine disparaît, bah, les marais salants disparaissent. Et là, des crabes dits enragés, sont venus d'Europe et d'Afrique de l'Ouest, ont commencé à réguler la population de crabes des marais, et l'ont tellement régulé que maintenant les crabes des marais représentent 15%, hein, et donc 85% de crabes enragés, et ce faisant, les crabes enragés avaient pour but non d'éradiquer les crabes des marais, hein, c'est pas ça, c'est de faire revenir la spartine, parce que eux, c'est pas tellement que ça leur plaît comme nourriture, mais la spartine abondante attire d'innombrables cnidaires. Alors, les cnidaires, hein, ça tombe bien parce qu'il y en a 10 000 espèces. Ah, alors, y a de quoi faire. Hein. Alors, les cnidaires, hein, ce sont des vers marins, des vers de sable, les méduses en font partie aussi, les sangsues, enfin bon, il y a... Et donc, le but, hein, en restaurant cet écosystème des crabes enragés, c'était d'avoir des cnidaires à manger. Mais du coup, l'écosystème des marais salants est à nouveau prospère.
Et quelles sont les relations entre espèces locales et espèces dites invasives?
Ces relations, hein, globalement, elles sont très bonnes. Hein, même si, de temps en temps, hein, pendant un laps de temps, il peut y avoir des déséquilibres. Hein, mais globalement, elles sont vraiment tout à fait complémentaires. Hein. Alors, par exemple, hein, des insectes qui sont déjà là, des insectes indigènes, disons, hein, entre guillemets. Bon. Quand ils voient arriver des plantes invasives, bah, c'est une source de nourriture, ils modifient tout de suite leur régime alimentaire. Ah, et donc, c'est parfait pour eux. Bon, pour des plantes qui sont déjà dans des écosystèmes, hein, des plantes donc indigènes là aussi, hein, quand ils voient arriver de nouvelles espèces qui les mangent, bah, évidemment, elles n'ont pas forcément les toxines, etc. Mais, par exemple, hein, bah, il leur suffit de modifier la hauteur de leurs feuilles épineuses, hein, pour éviter d'être mangé. Hein, alors par exemple, les houes, les lières, hein, sont passés maîtres dans cette adaptation. Pour une vue plus générale, hein, sur 65 sites naturels représentant tous les écosystèmes, hein, il a été montré que les espèces dites invasives, hein, microscopiques, macroscopiques, végétales, animales, elles occupaient exactement la même surface dans ces écosystèmes que là où elles étaient avant. Donc, finalement, elles reproduisent les mêmes volumes, quoi. Sur 57 autres sites naturels mondiaux, représentatifs, là encore, de tous les écosystèmes, hein, les espèces dites à tort invasives, elles font diminuer le nombre d'individus des espèces très abondantes, mais en revanche, elles ne font pas diminuer le nombre d'individus des espèces locales rares. En Grande-Bretagne, mais c'est vrai ailleurs aussi, hein, il y a 103 sites boisés qui ont été examinés. Hein, et en fait, hein, les végétaux propres à la Grande-Bretagne, hein, comme par exemple les lières, les orties, les fougères, les ronces, et, bon, et d'autres, hein, ces végétaux sont toujours 4 fois plus nombreux que les végétaux dits invasifs, comme les rhododendrons, les sycomores ou les baumiers. Donc en fait, hein, il y a une augmentation de la biodiversité totale, là, parce qu'il y a un très grand nombre d'espèces qui sont en fait en prospérité actuellement. Par exemple, hein, le macaon géant, qui est un papillon d'Amérique latine, hein, originellement, hein, bah, actuellement il est très heureux à Montréal. Les coraux, alors les récifs coralliens, là on fait tout un plat, c'est épouvantable, etc. Mais attention, les récifs coralliens qui disparaissent actuellement et encore... bon, c'est peut-être moins alarmant, ce sont les coraux durs. En revanche, les coraux souples, eux, ils sont en expansion partout sur la planète, hein, et notamment les gorgones. Et les coraux souples, en cas de réchauffement climatique, bah, tout simplement, ils succèdent aux coraux durs, ils les remplacent, ils assurent exactement les mêmes services écologiques. Donc c'est prévu, quelque sorte. En Finlande... les 334 espèces de papillons, hein, finlandais ne souffrent pas du tout du réchauffement climatique. Le saumon rose est en prospérité un peu partout. Les grands requins blancs aussi, bon, etc.
Pour conclure, quels sont les avenirs envisageables des espèces planétaires?
Pour ce qui concerne l'espèce humaine, hein, qu'il faut toujours mettre à part. Hein. Alors, effectivement, hein, recourir... aux technologies, à la géo-ingénierie, etc., promet un avenir plutôt sombre. Bon, ça ne fait en fait qu'aggraver les choses. Ah, j'avais cité également la fertilisation artificielle des mers et des océans avec du fer artificiel. Ah, bon, et ça, effectivement, ça continue et ça ne donne rien. Hein. Donc, en fait, hein, Au fur et à mesure que l'humanité se mettra à faire ça, sa situation sera de moins en moins bonne. Et on pourrait voir un avenir où des technologies hyper sophistiquées comme ça, mais qui ne serviront à rien, et une non-satisfaction des besoins de base. Parce que si l'eau douce est salinisée jusqu'à 250 mg de sel par litre, il n'y a pas d'avenir pour cette espèce. Donc c'est plutôt ça, à moins évidemment que l'espèce humaine prenne conscience que son seul et unique atout, c'est justement de laisser de la place à la nature, et qu'elle fasse disparaître des millions de kilomètres carrés d'infrastructures. Auquel cas, les écosystèmes reviennent et effectivement résolvent tous les problèmes environnementaux. Alors, pour les 30 millions d'espèces, elles vont continuer leur dynamisme. Jusqu'à présent, on parle de la sixième extinction, enfin, etc., actuellement. Bon, c'est totalement erroné. Et par ailleurs, il n'y a pas eu cinq extinctions massives précédemment. Il n'y en a eu qu'une. Il y a 250 millions d'années, il y a effectivement eu... Et là, les fossiles, vraiment, sont formels. Il y a une rupture tout à fait nette. 95% des espèces que l'on a sur des fossiles avant 250 millions d'années ne sont plus là après. Mais en revanche, cette extinction massive a été suivie d'une recréation massive.
Mais la cause de cette extinction massive...
C'était un réchauffement climatique. D'accord. Particulièrement puissant.
Brutal.
Voilà. Non, il n'a pas du tout été brutal. Mmh. Il a été très lent et s'est étendu sur environ 100 000 ans. Ah. Mais malgré tout, là, les températures ont atteint vraiment des valeurs importantes, puisque, bon, il y a eu, c'est un petit peu une exception, puisque, bon, en gros, c'est les variations de l'orbite planétaire et les variations de l'axe de rotation de la Terre, tous les deux par rapport au Soleil, qui déclenchent alternance, réchauffement, refroidissement. Bon, en général, l'orbite terrestre, elle est très régulière, puisqu'elle est elliptique. Mais là, il y a eu un problème orbital qui a conduit à des températures importantes et qui a conduit à cette extinction massive, mais il n'y en a eu qu'une. Et après, il n'y a pas eu moins de problèmes. La nature a recréé encore plus d'espèces. Donc, il est peu probable qu'il y ait un problème concernant ces 30 millions d'espèces. Un problème, de toute façon, il y en aurait d'autres. Bon, puisque en permanence, il y a suffisamment de bactéries sur la planète qui contribuent à créer des espèces. Alors, en revanche, un seul danger menace non seulement les 30 millions d'espèces, mais également l'espèce humaine, évidemment, c'est un emballement climatique. Alors, là, effectivement, il ne faut pas quand même oublier ce qui s'est passé sur Vénus il y a plusieurs milliards d'années. Vénus a été victime d'un emballement climatique avec le triptyque qui existe également sur Terre, CO2, méthane, vapeur d'eau. Alors, l'emballement climatique de Vénus est dû à une orbite par rapport au Soleil totalement aberrante. C'est-à-dire que c'est une orbite qui avance puis après qui recule. Bon, c'est pas du tout une orbite élégante comme la Terre. Alors, ce qui devait se passer sur Vénus, c'est passé. Il y a eu effectivement énormément de dégagement de CO2 qui a entraîné un énorme dégagement de méthane et le tout provoquant une évaporation générale, puisqu'il y avait beaucoup d'eau sur Vénus, bien sûr, comme il y en avait sur les autres planètes et comme il y en a beaucoup sur la Terre. Et donc, depuis, ça s'est passé il y a environ 3 milliards d'années, depuis 3 milliards d'années, la température atmosphérique de Vénus est plus 400 degrés en permanence. Alors, Ça peut très bien arriver sur Terre, non pas à cause de l'orbite terrestre, qui elle, il est très peu probable que l'orbite terrestre puisse déclencher quelque chose comme ça. En revanche, l'espèce humaine, oui, puisqu'elle envoie de plus en plus de gaz réchauffant. Il y a le CO2, mais il y a énormément d'autres gaz à effet de serre encore plus réchauffants.
Il ne faut pas arriver à 400 degrés, il faudra attendre un peu quand même.
Attention, il y a 8000 milliards de tonnes de méthane disponibles en tout sur la planète. Si même 1000, 3000 ou 5000 milliards de tonnes sortent, ça accroît considérablement la température atmosphérique et ça fait sortir énormément plus de vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau étant très chaude, ça fait. C'est tout un enchaînement. Et non, c'est pas. Évidemment que actuellement, la nature, les mécanismes naturels gèrent tout ça. Mais c'est vrai que Le cumul d'un réchauffement provenant du CO2, du méthane et de la vapeur d'eau peut provoquer un emballement climatique. Et un degré d'ébullition d'eau, c'est pas si, si loin. Hein. Voilà. Donc, pour les mécanismes naturels, les millions d'espèces, la nature, c'est le seul danger réel qu'il y ait. Et ce danger, il peut être effectivement déclenché par la continuation, par l'espèce humaine, de l'envoi de beaucoup de gaz à effet de serre.
Merci Jean-Luc pour tous ces éclairages. Et donc, ainsi se termine cette émission des Périphériques vous parle. Nous nous retrouverons le troisième mardi du mois prochain pour une nouvelle émission. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, bande FM, restez à l'écoute.